Bonjour tout le monde.
Bonjour tout le monde et bonjour Serge.
Bonjour, bonjour.
Vous nous ramenez au Mont-Royal.
Au Mont-Royal, oui. Ben, un article très intéressant publié par les amis du Mont-Royal. C'est vraiment des activités à faire sur le Mont-Royal cet été.
Super.
C'est vraiment extraordinaire.
Isabelle, une petite fromagerie dans votre coin de pays natal, je crois.
Oui, exactement. Je cherchais. En fait, moi, je voulais vous parler de Bleuet, même si on n'est pas dans la saison. Parce que j'ai perdu ma cousine abitibienne la semaine dernière. Et une des dernières choses qu'elle m'a dit, c'est à quel point elle aimait cueillir les bleuets quand c'était la saison. Il manquait pas une saison. Mais je suis plutôt tombée sur cet article qui parle d'une fromagerie, mais qui fait surtout du yogourt.
Ah.
Donc, et c'est tout près d'Amos, donc là où j'ai grandi. Alors, je vais vous en parler.
Bon, alors, beaucoup d'émotions. On vous présente nos condoléances, Isabelle.
Merci.
Et on a beaucoup de tristesse aussi dans notre cœur ce matin parce que hier on a appris avec stupéfaction, moi je ne la savais pas malade, Sophie Fauché, grande actrice, communicatrice, une femme qui fait partie du paysage culturel depuis des années. Elle a commencé sa carrière très, très, très jeune, elle qui est la fille de Françoise Fauché, notre grande comédienne qui est toujours en vie à l'âge de 96 ans, qui a la grande tristesse de perdre sa fille Sophie Fauché qui s'est éteinte à l'âge de 68 ans, lui rend des hommages partout, bien sentie, elle qui était une bonne vivante, qui croquait dans la vie, et je pense qu'elle aurait aimé cette chanson où ce sont des vieilles dames qui croquent dans la vie.
Machine à clous. Moi je veux être frippé, triplement frippé, frippé comme une triplette de Belleville. Je veux pas finir ma vie à Acapulco, dans ces tourelles avec des gigolos. Moi je veux être tordu, triplement tordu, balancé comme une triplette de Belleville. Allez les filles, allez.
Belleville, rendez-vous
beaucoup. C'était M avec Ben Charest.
À part nos deux chroniqueurs, Serge et Isabelle, il y aura la chronique cinéma avec Louise-Véronique Sicotte aujourd'hui. Également, une rencontre. En fait, c'est une entrevue qu'on a enregistrée hier en début d'après-midi avec l'humoriste française Anne Roumanoff qui sera au Québec pour présenter deux spectacles à l'Olympia de Montréal ainsi qu'au Capitole de Québec. Et j'ai eu la chance de converser avec elle une bonne quinzaine de minutes. Pour tout de suite, allons-y avec les unes avant la chronique en compagnie de Julien Caillouette pour prendre des nouvelles du Canada francophone. À la une de la presse, plus dénudé par l'IA à 12 ans. L'article porte sur la montée des hyper-trucages sexuels qu'on appelle des fakes qui sont créés à l'aide de l'intelligence artificielle et utilisés pour cibler des adolescentes. Le reportage présente notamment les cas de Camille et de Sarah, reportage signé Chloé Bourquin. Camille et Sarah, qui sont deux jeunes Québécoises dont des photos ont été modifiées pour les montrer nues et diffusées sans leur consentement. Ces images sont souvent très réalistes, servent à intimider, humilier ou nuire à la réputation des victimes. Les conséquences sont très importantes, anxiété, honte, troubles du sommeil et peur du jugement des autres. Les experts, les policiers, les juristes s'inquiètent de la croissance rapide du phénomène, particulièrement chez les jeunes, et réclament une meilleure adaptation des lois ainsi qu'une plus grande sensibilisation afin de protéger les victimes et prévenir ces abus. On parlait de Sophie Fauché, 1958-2026, la mort d'une actrice flamboyante, un beau texte de Luc Boulanger et beaucoup d'hommages de ses anciens collègues de travail, dont Marc Labrèche, qui parle de la générosité de sa grande amie avec qui il a joué au théâtre alors qu'il avait 8 ans. Et à la une du Devoir aussi, on voit la belle photo de Sophie Fauché, l'inimitable Sophie Fauché est décédée. Santé mentale, un autre titre à la une du Devoir, efficace, interdire les réseaux sociaux aux jeunes, l'intention d'Ottawa de restreindre leur accès aux moins de 16 ans, suscite des avis partagés chez les experts consultés par Le Devoir, texte de Léo Mercier-Ross. Et puis à la une du Devoir, 31 millions de ventes en 15 jours, la folie pour un nouveau jeu québécois. C'est à lire en page 27 du Journal de Montréal d'aujourd'hui. Si vous êtes amateur de jeux, vous le connaissez sans doute. Les Sims de Lévis font un tabac. Connaissez-vous ça, vous, Mathieu?
Je connais les Sims, mais pas ceux de Lévis.
Okay. Un studio de jeux vidéo de 15 personnes nichées près du marché Atwater à Montréal vient de réaliser ce que les grandes multinationales du jeu n'arrivent plus à faire, créer un engouement mondial en quelques heures. Depuis son lancement sur Steam le 25 mai, Paralives a vendu 900 000 copies en 15 jours. À 50 $ l'unité, le studio a touché 31 millions en revenus après la commission de 30 % de Steam. Et puis, il y a Sophie Fauché, une grande actrice nous quitte et on a beaucoup de peine ce matin. On prend des nouvelles du Canada francophone avec le rédacteur en chef chez Franco-Presse, Julien Caillouette. Bonjour, Julien.
Bonjour, Hélène.
La commissaire réclame un règlement plus précis sur les régions à forte présence francophone. C'est votre première nouvelle.
Oui, parce que ça fait un moment qu'on suit le dépôt des règlements pour la mise en œuvre de la loi sur les langues officielles qui a été renouvelée en 2023. Mais il y a aussi une autre loi qui a besoin d'un règlement. C'est la loi sur l'usage du français au sein des entreprises privées sous compétence fédérale. C'est un peu séparé de la loi sur les langues officielles, mais c'est relié. Puis ça concerne les grandes entreprises comme, bien sûr, Air Canada et Viareid. On entend souvent parler des problèmes de français d'Air Canada. Mais il y a aussi, ça va aussi concerner les plus petites entreprises qui opèrent dans certaines régions qui vont être désignées comme étant à forte présence francophone. Il y a quelques semaines, on a appris ce serait quoi ces régions-là. Il y a entre autres le Nouveau-Brunswick au complet. Il y a Saint-Boniface au Manitoba. Il y a quelques régions en Nouvelle-Écosse. Il y a Edmonton en Alberta, puis plusieurs régions de l'Ontario. La semaine dernière, ce projet de règlement-là est à l'étude au comité des langues officielles de la Chambre des communes. Puis la semaine dernière, il accueillait la commissaire aux langues officielles, Kelly Burke, pour avoir son avis sur le projet de loi. Puis finalement, elle a sévèrement critiqué. Elle, ce qu'elle aimerait voir, c'est plus de régions francophones désignées comme à forte présence francophone, au moins une par province. Elle veut une étude sur l'impact de la réglementation aussi. Est-ce que ça va avoir un effet bénéfique? Elle aimerait avoir une définition de certains termes utilisés dans le règlement, comme « service » communication et consommateur, parce qu'elle donne l'exemple. Quelqu'un qui dépose un ami à l'aéroport peut avoir besoin de services en français sans être lui-même un consommateur. Donc, on ne peut pas juste limiter la description au consommateur, mm-hmm. d'après elle. Donc, faire remarquer aussi que sans liste précise d'entreprises assujetties à la loi, ça pourrait lui donner beaucoup plus de travail en tentant, de, selon les critères du règlement, de savoir si une entreprise est soumise ou non. Donc, elle aimerait avoir une liste pour que ce soit plus facile.
Comment s'adapter au changement climatique en conservant les biens patrimoniaux? Une question que pose le courrier de la Nouvelle-Écosse.
Oui, puis ça concerne principalement les systèmes d'aboiteaux dans la baie de Fundy en Nouvelle-Écosse qui sont menacés par les changements climatiques. Là, vous allez peut-être me demander qu'est-ce que c'est un aboiteau.
Vous allez me répondre.
Oui, je vais vous donner la réponse parce qu'il a fallu que je fasse un peu de recherche pour le savoir. C'est quand même intéressant. Quand les Acadiens sont arrivés dans la région de la baie de Fundy, Ils ont réussi à assécher les marais salants qu'il y avait autour de la baie. Puis je vous rappelle que la baie de Fundy, c'est l'endroit au monde où il y a les plus hautes marées. Là, il peut y avoir une différence de 12 mètres entre la marée basse et la marée haute. Donc, ça monte très haut, puis ça peut inonder les terres autour. Donc, ils voulaient des terres cultivables. Donc, ils ont construit des digues autour de la baie de Fundy pour assécher les marais qui étaient juste à côté. Ça a quand même dégagé des terres très fertiles qui ont permis aux Acadiens de s'installer puis de se nourrir. Mais pour que, en créant des digues, s'il pleut, l'eau peut s'accumuler aussi dans ces terres-là et ne pas en partir. Donc, ce qu'ils ont fait avec les digues, c'est qu'ils ont creusé des canaux à la base de la digue. Puis quand la marée est basse, ça permet à l'eau qui s'est accumulée dans les champs de s'écouler vers la baie. Puis quand la marée monte, bien, il y a un clapet à l'intérieur, un peu comme dans des tuyaux dans une maison, qui se referme par la pression de l'eau puis qui empêche l'eau de remonter dans les champs. Ce que l'Institut Transcoastal Adaptation dit, c'est que la montée des eaux due au changement climatique pourrait atteindre 1 mètre d'ici 2100. Puis ça risque de faire passer l'eau de la baie de Fundy par-dessus les digues qui existent depuis très longtemps. Donc, on pourrait tenter de vouloir préserver ces digues-là et les aboiteaux parce que ça fait partie du patrimoine acadien. Mais on pose la question ouvertement, est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Est-ce qu'on peut les déplacer ou avec le coût que ça pourrait entraîner? Mais aussi, est-ce qu'on peut accepter qu'elles soient submergées puis qu'on utilise les terres agricoles qui seront par conséquence submergées d'une façon différente avec une autre activité? Donc, il y avait des tests, un atelier pratique, là, mais il n'y a pas de réponse définitive à l'exercice. Ce que ça illustre, c'est que parfois, il va peut-être falloir imaginer un juste milieu entre les deux extrêmes pour s'adapter au changement climatique.
Aboiteau, un nouveau mot dans notre vocabulaire. Bientôt, un modèle pilote d'éducation pour la petite enfance neurodivergente francophone.
Ça va être grâce à la chercheuse Bianca Nugent qui a eu une bourse de 150 000 $ pour étudier la question. Elle veut principalement répondre, la question principale, c'est dans le cadre d'une pénurie de main-d'œuvre spécialisée en petite enfance francophone, qu'est-ce qui arrive aux enfants qui ont des besoins particuliers? Puis elle pose cette question-là dans un contexte où l'Association francophone de l'éducation de la petite enfance de l'Ontario a fait un sondage et a découvert que seulement 4 % des organisations qui ont répondu au sondage avaient des ressources pour les enfants qui ont des besoins particuliers, les enfants neurodivergents. Or, on sait que si ces enfants-là ne sont pas pris en charge très tôt, bien, ça peut avoir des répercussions à long terme sur leur développement. Puis de plus, quand il n'y a pas de service dans une école ou une garderie francophone, puis que l'enfant en a vraiment besoin, les parents n'ont souvent pas le choix de se tourner vers le système anglophone. Donc, on rentre dans des questions d'assimilation. Donc, elle a reçu du financement pour 2 ans. Il va falloir attendre jusqu'en 2027 au moins pour les premières données qu'elle va aller chercher. Mais en 2028, elle espère présenter 4 modèles pilotes là, qui pourraient permettre de mieux servir les enfants francophones qui ont des problèmes, qui sont neurodivergents. Pardon.
Par ailleurs, la francophonie canadienne se mobilise pour le bilinguisme au Manitoba.
Je pense que je vous l'ai déjà mentionné, là, le premier ministre Wab Kinew a annoncé qu'il veut faire du Manitoba une province officiellement bilingue. Puis la semaine dernière, à Winnipeg, c'était l'Assemblée générale annuelle de la Fédération des communautés francophones et acadiennes. Donc, pendant l'Assemblée, il y a une résolution qui a été déposée et acceptée pour appuyer la démarche de la province à devenir bilingue. de cette façon-là, la FCFA veut rappeler qu'il y a des millions, ben, 1 million de francophones hors Québec qui encouragent la démarche. Puis la Fédération souligne aussi que des gains de ce genre-là dans une province spécifique, ben, ça peut profiter à tous les francophones et encourager toutes les provinces du pays parce que ça crée un précédent puis ça peut encourager d'autres actions positives. Même si on est conscient que ça n'arrive pas du jour au lendemain, là, puis que ça peut prendre du temps, mais chaque petite victoire compte.
Tout à fait. On
compte sur celle-là.
Et une nouvelle triste en terminant, le Yukon qui a perdu son plus vieil hôtel.
Oui, ça date du 17 mai. C'était l'hôtel Westminster à Dawson qui a malheureusement été détruit par un incendie. C'était le plus vieil hôtel-bar encore, un des deux plus vieux hôtels-bar encore en activité au Yukon. Il a été construit il y a 125 ans, puis c'était un des rares vestiges qui reste de la ruée vers l'or du Klondike.
Triste.
Le seul autre, c'est le... Oui, très triste, mais... Il y a d'autres histoires. Il se passait des choses farfelues dans ce bar-là, apparemment.
Il faudrait que vous nous les racontiez un jour.
Il ne faut pas manger en les racontant, c'est ça le problème. Il reste un autre bar à Whitehorse qui s'appelle le 98, qui date à peu près de la même époque aussi. Donc, le 98 est le dernier. Évidemment, la communauté de Dawson est triste là, par cette perte-là. Puis, c'est plus marquant pour certains que pour d'autres. Entre autres, l'Aurore boréale a rapporté les propos de Hélène de Repentigny, qui est une artiste franco-yukonaise qui a peint des murales, qui avait peint des murales à l'intérieur du bar. Donc, pour elle, c'est une perte encore plus triste. Puis, elle a des difficultés à se remettre de cette perte-là du bar qu'on appelait aussi le pit.
Oui, on peut la comprendre. Merci beaucoup, Julien, pour toutes ces nouvelles. Puis, on se retrouve la semaine prochaine.
Je ne pense pas.
Attends une minute, la semaine prochaine. Oui, nous serons le 17 parce que j'étais dans la fête nationale là, le 24. Parce que le mercredi 24, nous serons en congé. Mais la semaine prochaine,
d'accord,
on sera là. À bientôt.
Au revoir.
Allons-y avec vous, Isabelle, la petite fromagerie qui rêve de conquérir le Québec avec son yogourt. Ça se passe en Abitibi.
Exactement. Donc, on parle de la ferme laitière Boréalais, qui est à Saint-Félix-de-Dalquier, et ça, c'est près d'Amos, en Abitibi. J'ai trouvé l'article sur le site de Radio-Canada, c'est signé Marie-Hélène Paquin, en date du 18 mai dernier. Donc, on commence par nous dire que cette compagnie compte une poignée d'employés, mais qui fabriquent des centaines de litres de yogourt chaque mois. Et leurs produits se font de plus en plus connaître, pas seulement en Abitibi, mais aussi ailleurs dans la province. Donc, petit tableau, il est 6 heures. 3 employés de la ferme Boréalais brassent déjà du yogourt pasteurisé la veille pour y ajouter des fruits lorsque commence la visite des lieux de la journaliste. C'est le mardi matin, toutes les deux semaines, que la petite équipe de la fromagerie artisanale ajoute des confitures de fruits à son yogourt pour créer différentes saveurs comme fraises, framboises, bleuets. Vous allez voir, il y a aussi des saveurs au miel et à l'érable. Et pour le dernier parfum, donc bleuet, c'est vraiment un des plus populaires. En tout cas, il y a 85 litres de yogourt qui sont produits toutes les deux semaines de cette saveur-là seulement. Et apparemment, c'est la seule confiture qui est vraiment faite sur place localement. Ils ont un congélateur plein de bleuets. Des personnes nous en apportent quand c'est la saison. Ça, c'est la chef de la production, Valérie Sanson, qui nous le dit. Le yogourt, c'est en train de devenir le moteur du développement de la fromagerie. C'est une fromagerie qui est située à même la ferme laitière exploitée par Evelyne Rancourt et Benoît Larochelle. C'est en bordure de la route 109. Et c'est vraiment le yogourt qui a convaincu Evelyne Rancourt de se lancer dans la production laitière il y a plusieurs années. Elle dit qu'elle est allée en Europe quand elle avait 25 ans et en voyage, elle était tombée en amour avec le yogourt. Et c'est vrai que quand on est habitué au yogourt québécois, il y a plusieurs années, là, on commence à avoir des trucs un peu plus... des petites productions, mais la production de masse, on a souvent un yogourt un peu faible en gras, puis avec un peu moins de goût. Donc, c'est pas étonnant pour moi là, qu'on soit tombé en amour avec le yogourt, d'ailleurs.
On aimerait bien goûter, en tout cas.
Vous allez pouvoir le goûter, vous allez voir, je vais vous dire.
D'accord.
Comment. Peut-être pas tous les auditeurs, hein, malheureusement, à moins d'être en Abitibi ou dans la région de Montréal, mais peut-être que ça s'en vient chez vous. Donc, vraiment, pour elle, là, l'idée de base d'avoir même des vaches à la base, c'était de faire du yogourt. C'est son dada. Le yogourt a une place spéciale dans son cœur. Donc, en ce 12 mai, donc, où la journaliste est allée les visiter, il y a encore du gel au sol. Elle est arrivée à la ferme donc, où le couple vit avec ses 5 enfants. Donc, Evelyne les accueille, la journaliste, pour visiter l'usine avant que Valérie Sanson et son équipe leur montrent comment ils brassent, mettent en pot et étiquettent le yogourt au bleuet. Valérie dit, « Moi, j'arrive à 3 heures le matin. Quand j'arrive, je fais le lait et le lait au chocolat. »
3 heures le matin.
Pendant que ça pasteurise, je fais des mélanges de yogourt. D'habitude, j'ai le temps de faire le mélange de yogourt aux fraises avant que Kim et Félix arrivent. Et quand ils arrivent, ils vont faire tout le reste pour m'aider. On va finir d'empoter tout le yogourt avant de faire la production de lait et de lait au chocolat. Ce qui est le plus frappant en entrant dans le local de la fromagerie, selon la journaliste, c'est de voir à quel point les produits sont encore faits à petite échelle, à la main, malgré le succès grandissant de Boréalais. Et petite parenthèse, alors j'adore ce nom-là, Boréalais, je trouve que c'est un beau, tu sais, on a souvent des mots combinés comme ça, mais j'aime bien le.
Oui, un mot. Est-ce qu'on appelle ça un mot valise?
Ah, peut-être, oui, merci.
Je pense.
Justement, comment on appelait ça? Donc, elle dit, les fruits sont ajoutés au yogourt à l'aide d'un fouet. Le mélange est versé dans des pots de plastique de 500 ml à la main. D'ailleurs, Valérie Sanson dit, les clients aiment beaucoup le fait que ça soit fait ici, que ça soit petit, que ça soit frais et fait avec amour. Elle dit, c'est moi qui le fais presque depuis le début. C'est moi qui les fais tous et j'adore mon travail. Et là, ben, je lui avais dit que vous allez peut-être avoir l'occasion d'y goûter. Oui. Même si c'est encore produit de façon artisanale, c'est le yogourt qui a permis à l'entreprise de sortir des frontières de la Abitibi Témiscamingue et de se retrouver sur les tablettes des supermarchés tôt, entre autres, là, dans la région de Montréal et des environs. Donc ça, c'est à plus de 600 km de ces installations.
Les marchés tôt, T-A-U.
TAU, exactement. Et Evelyne Rancourt dit, on a commencé un partenariat avec un distributeur ici, donc ici en Abitibi, on fait nous-mêmes la distribution, donc on s'occupe de distribuer du nord au sud, mais pour sortir de la région, c'est un peu plus compliqué, donc on a fait affaire avec Fromage CDA qui a accepté de nous représenter et de nous distribuer. Et ce sont les yogourts, malheureusement pas celui au bleuet, il va falloir que j'y goûte quand je vais faire un petit tour en Abitibi au mois d'août. Mais les yogourts au miel et à l'érable, parce qu'ils se conservent plus longtemps. Donc, ce sont ceux qui sont vendus dans les marchés tôt, donc il y a eu, mais aussi dans des marchés végétariens du groupe Épicia et dans quelques marchés de Repentigny et de Mascouche. Donc, ça s'étend un petit peu. On est en train de développer ça tranquillement, dit Evelyne Rancourt. C'est pour ça qu'on fait des événements pour le faire goûter, pour le faire connaître, et la réceptivité est super bonne. Notre but, c'est pas d'être mur à mur dans tous les IGA du Québec. On serait pas capable de faire ça de toute façon, mais on aimerait quand même élargir, consolider quelques places. Elle se permet vraiment de voir grand pour sa petite entreprise, d'autant plus que la relève est peut-être assurée puisque certains de ses fils adolescents ont un intérêt pour la production laitière.
Cinq enfants, il y en a certainement un ou deux qui vont s'intéresser à la suite.
Elle est très contente, très fière de ce qu'ils ont accompli. Elle dit, j'ai encore du mal à dire que je veux devenir la référence en yogourt du Québec, mais en disant ça, elle dit que peut-être qu'elle y pense. Mais elle dit, je trouve que ça prend beaucoup d'humilité pour avancer dans ce milieu-là, dans le sens que pour moi, Boréalais, c'est une extension de moi-même. Et donc, elle dit, à combien de portes on cogne et on fait goûter et on pense qu'il va se passer quelque chose? Pour un oui, on se fait dire, je ne sais pas combien de non. C'est pour ça que je dis que ça prend beaucoup d'humilité. Mais c'est un rêve quand même pour elle de développer ça, de sortir de la région, de faire rayonner l'entreprise et de faire rayonner la région, évidemment, en même temps. Et en terminant, on nous parle du fait que toutes ces vaches sont des vaches Jersey. Vous avez sûrement entendu parler de ce nom de vache-là.
Bien oui, chez nous, on avait des Hershey.
Hershey. Bon, ben, est-ce que vous saviez que les vaches Jersey sont reconnues?
Non, pas des Hershey, franchement, des Holstein. Hershey, c'est une marque de chocolat.
Une marque de chocolat avec des noms de vaches.
Oui, Holstein.
Holstein. Alors, apparemment que les vaches. Nous, ce qu'elle nous dit, c'est que les vaches Jersey font que le lait est plus crémeux.
Ah!
Et là, moi, j'étais curieuse de savoir pourquoi les vases Jersey sont meilleurs. Et j'ai demandé à Google.
Pas sûr.
J'ai allé valider là, avec quand même d'autres informations. Mais évidemment, les informations proviennent de sites de personnes qui vendent du lait à base de vaches Hershey. Mais quand même, on dit que...
Hershey. Je vous induis en erreur. Oui, les Jersey qui sont souvent rouquines, hein?
Oui, je pense que oui, selon les images. Donc, elle contient, ce lait-là contiendrait 18 à 20% plus de protéines et 20 à 30% plus de matière grasse que le lait standard. Et j'ai aussi trouvé plusieurs sources qui disent que les vaches Jersey produisent naturellement une majorité de protéines bêta-caséine A2. Ça, c'est reconnu. Et apparemment, là, c'est ce qui est moins démontré par la science, mais on commence à s'y intéresser, c'est que le type de protéine A2, contrairement au A1, qui est l'autre type de protéine du lait, apparemment, c'est souvent mieux toléré par les personnes qui ont des difficultés à digérer le lait. Donc, j'ai vraiment trouvé plusieurs personnes qui disent qu'ils ne pouvaient plus boire de lait à cause de leur intolérance, puis ils ont découvert le lait A2.
Donc, et c'est vraiment unique à la vache de type Jersey, là.
Jersey, apparemment. Mais j'ai trouvé une compagnie, Missiska, qui est québécoise, qui a accouplé des vaches, en tout cas, qui a fait pas de la manipulation génétique, mais qui a vraiment s'est arrangé pour qu'il y ait un vache et un bœuf qui soient les
un croisement.
En deux. Et là, ils ont croisé jusqu'à ce que les deux, que tous leurs troupeaux, donc toutes les femelles et les mâles, ont les deux A2. Donc,
on les appelle les Jersteen ou les Holzey. Non, je ne veux pas mélanger les gens.
Mais donc, c'est ça. Apparemment, là, c'est une autre bonne raison de chercher du lait à base de vache qui vient de vache Jersey.
Ah, est-ce que vous aimez le yogourt, tout le monde? Mathieu, Serge, oui. Mm-hmm. Moi, de plus en plus, il y en a des très, très bons, mais j'aimerais vraiment découvrir le Boréalais. Et on va peut-être y goûter. Miel et sirop d'érable ou érable, ça doit être quand même assez sucré, ça.
Ça doit être bon. Oui, mais c'est quand même... Je suis allée voir sur le site. Tu peux aller voir sur le site de Boréalais. Ils ont toutes les informations nutritives. J'étais curieuse de savoir. J'ai fait une petite règle de 3 pour vous, là, puis c'est 4% de gras. Donc, c'est une bonne quantité de gras, mais c'est quand même pas si pire que ça.
Mm-hmm. Un bon yogourt quand même riche, onctueux.
Oui, mais le yogourt nature, évidemment, il a plus de gras parce qu'ils n'ont pas ajouté de saveur pour diluer la quantité de gras, mais c'est ça, ils ont nature, fraise, framboise. En tout cas, vous allez voir les saveurs, mais moi, je vais vous en donner des nouvelles après, allant en Abitibi.
Oui, au mois d'août, alors peut-être que vous pourriez en mettre dans une glacière.
On va essayer.
Merci Isabelle, vous restez avec nous?
Oui, bien sûr.
Jolie musique.
C'est René Aubry.
Ah, merci. C'est pas André Gagnon, Serge. Mais André Gagnon, il en a composé de belles musiques. On s'en va à Mont-Royal. C'est la suite, quand même, de votre chronique de la semaine dernière. Plusieurs activités que va nous suggérer Serge.
Oh, allô.
On est ensemble jusqu'à 11h. Ben oui, il y a eu un petit bug technique. Serge, ramenez-nous au Mont-Royal, au parc du Mont-Royal. Vous avez plusieurs choses à nous dire.
Oui. Le Mont-Royal, c'est un site patrimonial, comme j'avais dit la semaine dernière. Et depuis le 9 mars 2005, le Mont-Royal est protégé par un décret du gouvernement du Québec. Ce décret permet de protéger un territoire urbain naturel qui s'étend, comme on l'a vu la semaine dernière, sur environ 4 km d'est en ouest et 2,2 km du nord au sud. Dans la municipalité de Mont-Royal, peut-être que beaucoup l'ignorent, aucun édifice ne peut dépasser la hauteur du Mont-Royal, parce que le Mont-Royal doit rester le plus haut point de la ville. C'est bien d'avoir fait ça, d'avoir décrété ça. La croix du Mont-Royal, elle va être éteinte durant un an, même plus qu'un an.
Oui, pourquoi?
Ben oui, la pauvre, elle a besoin de travaux, la pauvre, d'amour, de travaux. Pour l'éclairage, refaire l'éclairage.
Mais elle fait pas pitié, quand même?
Oui, ben non, mais tu sais, ben après... Non, je vais faire pas pitié, mais c'est bon, dans la peau.
On s'en occupe.
Ben oui, on s'en occupe.
On va la rallumer.
Oui. Alors, le calendrier du chantier, ben ça va probablement débuter après les championnats de vélo sur route prévus à la fin de septembre 2026, selon le responsable des infrastructures, M. Dessoussa. Et la remise en lumière est prévue pour l'automne 2027, et la fin complète des travaux au printemps 2028.
Ça va être
préciser.
Long?
Oui, bien oui. Il y a beaucoup de choses à voir pour la structure, les joints, tout ça. Alors, tu sais, c'est... tant qu'à le faire, aussi bien de bien le faire.
Ah, ça, c'est sûr.
Oui, c'est sûr. Alors, on nous dit qu'on va prendre toutes les précautions pour préserver le caractère historique de la croix. Ensuite, vous avez sans doute entendu parler, vous êtes posé la question, le Mont-Royal est-il un ancien volcan?
Oui.
Oui, hein, bon, on a tout entendu ça. Mais je me rappelle qu'un professeur dans les années 60, quand j'étais à l'école, là, parlait de ça. Il disait que c'était possible, tout ça. Mais là, c'est vraiment...
C'est une légende?
C'est une légende urbaine, tu sais, oui, oui.
Ouais.
Mathieu n'est pas d'accord.
Non, je me souviens du volcan tranquille. L'émission.
Oui. Oui.
Le volcan tranquille.
Est-ce qu'on parlait du Mont-Royal? Ben, oui, c'était-tu un clin d'œil au Mont-Royal?
Je pense que ça se passait à Montréal, mais
on
je ne l'ai jamais...
On va mettre en question notre éducation. Là.
Oui.
Mais il n'y a pas de volcan, là.
Non. Malgré que vous avez des articles... sur des plateformes comme TripAdvisor, Pinterest, qui font érupter des propos en ce sens.
Oui, jeu de mots ici.
Ouais, là, il faut que ça cesse parce que c'est vraiment pas un ancien volcan. Les amis de la montagne, c'est une. Le reste de ma chronique va être inspiré de d'un communiqué qu'ils ont publié. Elles se consacrent, les amis de la montagne, à la conservation et la défense du joyau montréalais. Alors, on dit que la montagne s'est formée sous terre il y a 125 millions d'années. Bien qu'une masse de magma se soit solidifiée en profondeur et ait durci, elle n'a jamais fait surface sous forme de lave. Il n'y a donc jamais eu de volcanisme sur le Mont-Royal. Et comment se fait qu'on se retrouve avec une montagne là, comme ça? C'est que c'est l'érosion sur des millions, 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 millions d'années qui a créé le Mont-Royal. Et puis le fameux lac des Castors, où on disait qu'il y avait...
des castors?
Des castors, non, il n'y a jamais eu de castors. On disait que c'était la bouche du volcan. C'est faux, cette affaire-là.
Bon, tout est faux ici.
Tout est faux.
Bon. Mais le parc du Mont-Royal existe pour vrai.
Oui, absolument.
Alors, il y a beaucoup d'activités parce que c'est le 150e.
Oui, exactement. Donc, les Amis de la montagne, qui célèbrent cette année leurs 40 ans, nous ont envoyé ce communiqué-là. Ils soulignent 40 ans d'engagement pour la protection et la mise en valeur de ce joyau montréalais. Et vous avez, ça va être présenté en continu dans le cadre du 150e anniversaire du parc du Mont-Royal. Ça s'appelle « À la racine de l'arbre », qui est une promenade sonore immersive au cœur du site patrimonial du Mont-Royal. D'une durée d'environ 2 heures, donc une bonne balade quand même, une bonne marche, c'est une balade sonore qui invite les participantes et participants à découvrir les raisons qui ont mené à la création du parc Mont-Royal. Et tout en allant à la rencontre de différentes essences d'arbres et à l'écoute de leur histoire et du paysage dans lequel elles s'inscrivent. À la lumière de découvertes scientifiques récentes sur les arbres, de témoignages d'expertes et d'experts et de récits d'usagères et d'usagers fidèles fidèles du parc du Mont-Royal, le projet met en valeur un patrimoine à la fois exceptionnel et fragile et propose une réflexion sensible sur notre place au sein du vivant. Alors, ce sera... le départ va être au monument Sir-Georges-Étienne-Cartier, qui est sur l'avenue du Parc.
Donc, à quel monument?
Sir-Georges-Étienne-Cartier,
okay.
Qui est au pied du Mont-Royal, au sud de la rue Mont-Royal.
Et là,
il y a
les tam-tams, non?
Oui, exactement, oui, c'est ça, oui. Ah ah! Vous êtes allé au tam-tam, Isabelle, là, vous.
Qu'est-ce qu'il y a?
Les tam-tams du Mont-Royal, à mon
avis. Oui, oui.
Institution, les tam-tams du
Mont-Royal. Oui, non, je sais, mais c'est parce que vous dites « ah ah! » Comme si c'était un crime.
Non, c'est parce que c'est comme très festif, tu sais.
Oui, bien oui, ben, pourquoi pas, on en profite.
Ben oui.
Alors oui, le rendez-vous va se faire...
au monument Sir-Georges-Étienne-Cartier, où il y a les tam-tams.
Vous dites tellement vite, là, vous mangez les syllabes.
Sir-Georges-Étienne-Cartier.
Oui, babibibouba, babibibobu. Et est-ce que ça coûte quelque chose ou c'est gratuit?
On dit que c'est gratuit.
Il faut s'inscrire, j'imagine.
Oui. Ils n'en parlent pas, c'est un peu le manque dans le communiqué. Ils n'en parlent pas.
Bon, on ira sur le site. Ouais. J'imagine qu'il y a une adresse courriel.
Oui, je vais vous donner ça tout à l'heure.
D'accord.
Accessible depuis l'application mobile gratuite Portail Sonore, disponible sur Apple Store et Google Play. Pour une expérience optimale, il est recommandé de télécharger les fichiers audio à l'avance afin de réduire sa consommation de données mobiles pendant la promenade. de rester en contact avec un réseau Wi-Fi ou à ses données mobiles. Ne pas oublier d'autoriser l'application à accéder à sa position dans les paramètres de son appareil et évidemment d'apporter un bon casque d'écoute. L'héritage de Frederick Law Olmsted. S'inscrivant toujours dans le 150e anniversaire du parc, cette randonnée invite à découvrir la vision de son concepteur, Frederick Law Olmsted, qui souhaitait améliorer la santé et le bien-être des Montréalaises et des Montréalais, ainsi que l'héritage des hospitalières de Montréal, dont le jardin, véritable joyau du site patrimonial du Mont-Royal, a joué différents rôles au fil de l'histoire. Alors, le parcours mène les participantes et participants du jardin du monastère des hospitalières, qui est à la Cité des Hospitalières, jusqu'au belvédère Camillien-Houde. Les hospitalières, c'est sur la rue, l'entrée sur l'avenue des Pins, tout près de Parc.
Oui,
ouais.
C'est beau, là.
Oui, oui, très, très beau. Et d'ailleurs, ceux qui peuvent visiter, là, ceux qui ont visité les jardins, là, disent que c'est vraiment...
splendide.
Très beau, très beau, très beau, ouais. Alors, c'est...
On n'est pas obligé de sortir du pays. Hein? On peut devenir touriste dans notre propre coin de pays,
oui.
Justement.
Et le point de départ, mais ce sera au musée des hospitalières de l'Hôtel-Dieu, justement. Et puis, on parle de 3 km, 3 heures, et ce sera les 13 juin et 9 juillet.
Peut-être deux dates. Que, ça va se remplir vite.
Peut-être que d'autres dates seront disponibles.
Annoncées.
Ouais.
Mm-hmm.
Les secrets bien gardés de la montagne. Il y a une invitation à se laisser charmer par le boisé du Piémont, situé dans le versant est du parc du Mont-Royal, par sa flore et ses formations rocheuses. Les participantes et participants découvriront par le jeu les nombreux mystères cachés du parc, une belle façon d'apprendre tout en s'amusant, et ce, de 5 à 88 ans.
Ah, si on a 89...
Plus que les Tintins. Alors, lieu de départ, toujours le monument Sire Georges-Étienne Cartier, bien articulé.
Yeah!
Voilà, environ 2 kilomètres, d'une durée de 2 heures, et c'est les samedis 13 juin, 11 juillet et 22 août. Alors, il y a le matin et l'après-midi, dépendant des journées. Que
ça, c'est quelle activité, là?
Ça, c'est les secrets bien gardés de la montagne.
D'accord.
Ouais. Vous avez ensuite le Bois Summit, qui est un bijou caché de la montagne. Peu fréquenté, le Bois Summit est un véritable trésor caché du Mont-Royal. Cette randonnée donne l'occasion de parcourir des sentiers boisés où la nature est reine et de découvrir l'histoire de cet espace protégé, sa biodiversité unique et l'évolution de son paysage au fil des ans. Entre forêts denses et points de vue insoupçonnés, ce parcours dévoile une facette inédite de la montagne, loin de l'effervescence des sentiers principaux. Alors, le départ se fera à la station de métro Côte-des-Neiges, au 5316 Côte-des-Neiges. Et
le matin? Est-ce qu'on indique l'heure?
Le samedi, le 27 juin, jeudi 23 juillet, samedi 29 août, c'est toujours... Il y a deux fois, c'est l'après-midi, puis une fois le matin. Et le Bois Summit, me rappelle, il est difficile à trouver.
Oui?
Oui, il y a le Summit Circle, qu'on appelle. On peut le faire en voiture, et il y a des maisons, là, des manoirs
Westmount,
anglais. Oui, oui, oui. Et j'ai essayé, je suis allé plusieurs fois, il y a très, très longtemps, mais c'est pour moi qui conduisais, un ami qui conduisait. Alors, j'ai essayé de retrouver ça l'autre fois, puis j'arrive pas à rentrer. Mais je me rappelle qu'on était débarqué, puis il y a un belvédère aussi de ce côté-là.
Oui.
Et on peut se promener, effectivement, dans ce sentier-là aménagé. Alors, ça doit être, quoi, il y a 20-25 ans que je suis allé là. Alors, ça a dû...
Il est temps que vous retourniez.
Oh, oui, absolument, oui, oui.
Rendez-vous au métro Côte-des-Neiges.
Ouais. Ensuite, il y a un parcours particulier, le Shinrin-yoku.
Qu'est-ce que c'est?
C'est inspiré des bains de forêt japonais. Cette marche menée par le guide certifié Éric Richard propose une lente immersion sensorielle favorisant la détente, la contemplation et la connexion au vivant. La séance invite à s'ancrer dans le moment présent tout en se laissant porter par un paysage naturel et historique d'un parc japonais. Ce sera les samedis 12 septembre et oui, c'est la seule date. Inscription, c'est gratuit à partir du 10 où on s'inscrit. Et il y a une seule fois. Ben oui, dommage.
Bon. Alors, il ne faut pas la manquer.
Non. Ensuite, vous avez, ben là, ça, c'est connu, les chaloupes.
Oui, sur le lac des Castors.
Oui, et les jeux extérieurs. Les Amis de la montagne proposent des balades en chaloupe jusqu'à la fin du mois de septembre 2026. C'est encore beau, même des fois en octobre, on peut peut-être encore le faire. Et c'est ainsi qu'une sélection de jeux d'extérieur pour petits et grands. Vous avez le Molki, c'est les quilles finlandaises.
Oui, je me souviens, Yvon Deslauriers en avait parlé. Il paraît que c'est bien agréable jouer
Le Spackball.
À ce jeu.
Oui, le Spackball qui est un jeu de poche. Et nouveauté cette année, le pickleball et le disc golf, très populaire.
Oui, le pickleball, c'est la folie furieuse.
Ouais. Le service de location est installé au kiosque penché près du lac des Castors du 15 juin au 30 août 2026.
Kiosque penché?
Le kiosque penché,
Est-ce qu'il est vraiment penché?
Je ne sais pas. Là, ça me... Moi, je connais le chalet du Mont-Royal.
Moi, je connais Méo penché.
Oui, Méo penché, oui, c'est le kiosque penché, là... Du 15 juin au 30 août 2026, tous les jours, selon évidemment les conditions météorologiques. Et en terminant, le Café des Amis, repas gourmand, breuvage et crème glacée. Situé au pavillon du Lac aux Castors et au chalet du Mont-Royal, le Café des Amis propose un menu original pour le plus grand bonheur des familles, des randonneuses et des randonneurs, et de toutes les personnes qui fréquentent le parc du Mont-Royal.
Ah, ça finit avec... vous nous faites saliver.
Oui, vous nous donnez vraiment
envie là, de profiter de ce beau parc. Il reste plus de temps, Serge?
Oui.
Peut-être l'adresse courriel, oui.
Oui, Isabelle Blou. Isabelle.blou, en commercial, belle...
Non, mais ça, c'est son adresse. C'est une attachée de presse.
Ah, OK, c'est ça. Ah, c'est M... Oui, OK. M dessus Mont-Royal, là.
OK. Bien, laissez-moi ça. Je vais le dire un peu plus tard. Parce que là, il faut se quitter parce qu'on a préenregistré une entrevue avec Anne Romanoff.
Okay.
Et le temps est compté. Merci à vous deux. À bientôt.
Bye.
Au revoir.
L'humoriste française Anne Romanoff est de retour au Québec pour deux représentations de son spectacle intitulé « L'expérience de la vie ». Anne Romanoff sera à l'Olympia de Montréal le 11 juin et le 12 au Capitole de Québec. Elle est au bout du fil. Elle n'est pas au Québec encore. Elle est en spectacle ce soir à Amiens. Bonjour Anne Romanoff.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Donc, vous revenez au Québec très, très bientôt après une importante tournée européenne qui se poursuit d'ailleurs et reste encore beaucoup, beaucoup de dates, là.
Ben là, je suis déjà en train de préparer le nouveau spectacle. Là.
Déjà?
Ce soir, je rôde dans une petite salle des nouveautés, là, ce soir.
Ah, oh, d'accord. Alors, l'expérience de la vie, c'est comme vous allez terminer votre tournée au Canada?
Alors, il y a le Canada, je vais jouer à Lyon, j'ai encore quelques dates, mais oui, c'est la fin de la tournée. Et donc, du coup, on peut dire que c'est très rodé.
Oui, j'imagine.
Ça fait 3 ans que je le joue, donc voilà.
Ah oui. Est-ce que vous êtes toujours heureuse de le présenter?
Oui, parce que comme je suis seule sur scène, je change des choses. Il y a tout un passage sur l'actualité. Donc là, je vais vous parler de Trump, de l'Iran, de l'essence. Voilà, je vais parler de tout ça aussi.
Ah oui, comment vous parlez de Trump?
Il faut venir voir le spectacle, je ne vais pas vous le faire.
Et Anne, qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus à l'idée de retrouver le public québécois qui vous connaît bien?
Ben, j'adore. Déjà, quand je dis aux gens que je vais au Québec, ça fait frime. Et non, je suis contente. En plus, là, c'est la bonne saison, il va faire beau.
Ah oui.
Mais j'adore le Québec, quoi. J'ai été beaucoup et voilà, c'est toujours un plaisir, quoi.
Et pourquoi le spectacle s'intitule « L'expérience de la vie » ?
Parce que j'ai un certain âge.
Un âge certain?
Ah oui, quand même, j'ai eu 60 ans, vous imaginez.
Ah donc, oui, vous êtes une sexagénaire.
Ah, quelle horreur, sexygénaire. Non, mais c'est l'expérience de la vie. C'est vraiment un spectacle qui parle de l'époque, mais en se demandant qu'est-ce que c'est d'avoir de l'expérience, est-ce que ça sert à quelque chose? Et j'aborde vraiment plein de thèmes de la société contemporaine. Je parle des caisses automatiques des supermarchés, du wokisme, des relations de couple, des coachs, du développement personnel, voilà, des réseaux sociaux. Donc, j'aborde plein de sujets. De Trump.
Ah oui, de Trump. Il ne faut pas l'oublier, ce Donald. Est-ce que vous l'avez adapté un petit peu, ce spectacle-là, pour le public québécois ou pas du tout?
En fait, ce que je fais quand je joue à l'étranger, parce que je l'ai joué aussi aux États-Unis, j'ai joué à Houston, j'ai joué à Londres, j'ai joué au Portugal, enfin, j'ai joué dans plusieurs... Mais non, en fait, la seule chose que je fais quand je vais Souvent, d'abord, c'est des Français qui viennent me voir, mais j'allège sur la politique française parce que même des Français qui vivent à l'étranger, ils ne savent pas forcément les derniers trucs. Donc, c'est juste ça que je fais comme effort. Et après, quelquefois, il y a des références de marques, comme
Ah
là, je
oui.
cite le nom d'une eau minérale qui est cheap. Et je sais que il faut que je trouve je remplace par un nom québécois parce que
Ah
la dernière fois, les gens ne
oui.
comprenaient pas de quoi je parlais. Voilà. Mais
Bon.
c'est vraiment des micro-détails. Et voilà. Mais sinon, franchement, les gens rient aux mêmes endroits. Et
Oui.
voilà.
Et Anne Romanoff, est-ce que c'est vous qui faites votre mise en scène?
Non, j'ai un metteur en scène, il s'appelle Gilles Galliot, avec qui je travaille. Et non, non, je ne fais pas ma mise en scène. Et c'est important pour moi d'avoir un regard extérieur de quelqu'un
Ouais.
qui me connaît pour. Parce que c'est voilà, je me cale beaucoup sur les réactions du public, mais on peut pas. C'est important aussi d'avoir voilà quelqu'un qui. Non, c'est important.
Pourquoi vous portez des gants de boxe sur le poster, l'affiche de votre spectacle, des beaux gants de boxe
Parce que
d'ailleurs
alors,
rouges?
parce qu'à l'époque, j'avais décidé d'arrêter de mettre du rouge sur scène, ça m'a pendant un moment, et du coup, je voulais qu'il y ait une touche rouge sur l'affiche, et je fais de la boxe dans la vie. Donc c'est mes vrais gants de boxe, enfin voilà. Et sauf que on avait une idée de numéro d'intro où j'avais des gants de boxe, qui a été une catastrophe.
Ah
C'est-à-dire
oui.
que quand je donnais des coups, personne ne riait. Quand je recevais, ça faisait pas rire non plus. Mais c'est vrai que c'est tout de suite assez vite violent. Mais j'ai quand même gardé les gants de boxe pendant les 30 premières secondes du spectacle pour faire un clin d'œil à l'affiche. Donc j'arrive avec des gants de boxe, mais très vite je les enlève, quoi.
Et Anne Romanoff, vous avez connu plusieurs générations de spectateurs. Est-ce que vous trouvez que les préoccupations du public ont changé ou pas vraiment là, depuis le début dans le métier, vos débuts dans le métier?
Bah si quand même, parce que j'ai démarré il y a 40 ans, donc si ça beaucoup. L'année
Oui,
prochaine,
puis
j'ai mes 40.
vous êtes inspiré beaucoup par l'actualité également, l'air du temps.
Oui, par l'actualité, l'air du temps, la société a beaucoup changé depuis 40 ans, la manière de faire de l'humour a changé. Bien sûr, tout change tout le temps, mais je trouve que c'est ça qui est intéressant dans la vie, c'est le changement, c'est pas de regretter. Enfin, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le présent et le futur. Donc, je trouve que de pouvoir livrer mon ressenti sur tout ce qui se passe, c'est. Enfin, j'aime ça dans ce métier, d'avoir cette liberté d'expression et que les gens viennent et que je les soulage avec ce qui, je les fais rire avec ce qui les angoisse. Enfin, je trouve que c'est un grand privilège, quoi,
Et de
d'être
faire
capable.
rire. Oui, allez-y.
D'être capable de faire ça, en fait, je suis étonnée. En fait, je m'étonne que ça fait si longtemps que je fasse ça et que ça marche et que voilà, je suis surprise. Je me dis, mais c'est fou, c'est bizarre, comme c'est très spécial hein, comme métier. Franchement, c'est un peu.
Vous dites que vous vous
C'est, on est,
étonnez.
on n'est pas tout à fait normal quand on fait ce métier. Je pense qu'on a un petit
Ah, vous
problème.
trouvez, ouais?
Mais oui, mais c'est pas normal de vouloir aller sur scène et de faire rire les gens. C'est un peu. C'est bizarre. Parce qu'il y a des gens, ils font juste des blagues dans la vie, ils font rire leurs copains et ça va très bien,
Ouais.
quoi. Et non, c'est
Mais
particulier comme forme artistique. C'est vrai que c'est particulier. Et de le faire
oui.
depuis si longtemps, c'est très étonnant. Donc, je sais pas.
Qu'est-ce que ça vous apporte quelques années après vos tout débuts, vos premiers pas sur une scène,
Bah,
de continuer?
je pense que je suis plus détendue maintenant, même si je vais jamais sur scène les mains dans les poches. Mais je suis plus dans le plaisir et dans le fait de dire, ça fait genre un peu développement personnel, mais genre merci l'univers de faire ça. Non, mais je me dis, j'ai une gratitude, non, mais vraiment que j'avais pas, parce que j'ai passé de longues années à me dire, ouais, mais d'accord, je fais rire, mais moi, je vais être comédienne de cinéma, pourquoi on me propose pas de rôle au cinéma? Enfin, j'ai passé de longues périodes à me dire, mais enfin, à être. Pas insatisfaite, mais. Et en fait, je me dis, mais excusez-moi le gros mot, mais putain, quelle chance j'ai de faire ça depuis si longtemps et que ça marche. Et surtout, la joie, j'écris mon nouveau spectacle, je suis libre de parler de ce que je veux. Bon, il faut que je fasse rire les gens, hein. C'est pas une petite contrainte, mais c'est une liberté quand même d'expression qu'on n'a pas. Voilà, et c'est vrai, vous le
Oui.
savez, quand on a la radio, à la télé, il faut faire attention à ce qu'on dit maintenant. Et la scène, c'est quand même un endroit où on est libre. Et moi, alors la contrainte de faire rire les gens, elle est pas des moindres, parce que je peux pas dire ce que je veux, faut que je fasse rire, mais c'est quand même incroyable, quoi, de pouvoir. C'est comme si je découvrais ce métier
Ah,
et je
wow.
m'aperçois. Oui, mais je m'aperçois de la chance que j'ai en fait maintenant, alors que j'étais pas consciente avant.
Oui, vous êtes reconnaissante, vous êtes devenue
Oui.
sage d'une certaine façon.
Non, non, j'aimerais. Non, non, pas du tout.
Mais en même temps, avec les réseaux sociaux, la scène, c'est pas nécessairement un lieu protégé parce qu'on peut aussi vous filmer, vous citer hors contexte. Est-ce que ce sont des choses auxquelles vous pensez ou...
Oui, alors après, les cellulaires sont interdits pendant le show, puis on le dit, là, mais je les confisque pas, je sais pas non plus. Non, non, mais après, bien, mais de toute façon, tout ce que je dis sur scène, je l'assume, hein, c'est pas la question. Non, c'est vrai que ce problème-là, il est plus quand on fait des émissions de radio ou de télé, où voilà, ça m'est déjà arrivé que les gens, mais des fois c'est le média hein, qui isole un petit truc, une phrase pour faire du buzz, il le met en
Ouais.
titre, et après ça crée tout un truc, alors que c'est pas forcément hein, quelque chose qu'on avait dit dans cette as voilà. Ça c'est, mais c'est l'époque qui voilà, c'est la culture du clic et voilà, mais
Bon, ça vous dérange pas trop. Ça vous dérange
ça
pas
fait
du tout.
partie de l'époque.
Ouais.
Ouais. Enfin, y a des problèmes plus graves. Hein. Il y a des gens qui sont sous les bombes en ce moment. C'est un peu plus grave, en
Ah,
fait,
c'est
que.
sûr, quand on se compare, on se
Ouais.
console pas mal. Est-ce que la Seine, c'est votre lieu préféré, Anne Romanoff?
Ben, je crois que oui. Parce que des fois, je suis au bout de ma vie. Je suis désespérée. Non, mais vraiment. Et j'arrive sur scène et tout va bien, en fait. Dès que je mets un pied sur scène, il y a comme un alignement qui se crée. Les gens se sentent bien, ou mieux, je crois, après mes spectacles. Mais moi-même. Je me sens mieux aussi, donc c'est, voilà, je me dis, il y a quelque chose, en fait, dans ce que je fais, il y a quelque chose qui m'échappe, en fait. Pourquoi ça marche? Je travaille beaucoup, hein, c'est pas ça. Je bosse énormément mes textes, je bosse tout. Je suis tout le temps en train de chercher à améliorer. Enfin, le spectacle que je joue depuis 3 ans, il n'est pas pareil qu'il y a 3 ans. Il a changé, enfin, il change tout le temps, tous les jours, en fait. Mais quand même, il y a quelque chose qui m'échappe de pourquoi, ouais.
Oui,
Mais tant mieux, hein, voilà.
parce
Il y
que
a quelque chose de
c'est.
mystérieux, voilà.
Moi, je me posais la question parce qu'il y a des humoristes qui font carrière 5, 10, 15 ans et plus, là. Mais est-ce que vous posez la question ou vous ne trouvez pas de réponse à la question pourquoi moi, pourquoi les gens continuent de me suivre, s'intéresser à moi? Est-ce que vous avez un début de réponse à ça?
Alors, je ne me pose pas les questions comme ça.
Non?
Parce que je... Non, après, un producteur, un jour, il m'avait dit, l'important, ce n'est pas que les gens viennent te voir une fois, deux fois, mais c'est qu'ils payent une troisième fois pour venir te voir.
Ah
C'est-à-dire que
oui,
s'ils ont été
trois fois.
contents, alors, 3 fois, ouais. Et j'ai trouvé que c'est un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné dans ma carrière, en fait. Ça. Parce qu'en fait, le degré de satisfaction du spectateur qui sort, c'est ça qui fait qu'il va en parler, que ça va amener d'autres gens.
Ouais.
Donc, ça me paraît très important. Après, il y a aussi plein d'humour, enfin en France, hein, je ne sais pas le Québec, mais en France, il y a plein d'humoristes qui ont bifurqué vers le cinéma, ils ont eu plein de propositions, après ils sont devenus réalisateurs de films. Moi, j'ai un peu... Non, je suis en interview. Non, 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 on ne rentre
Pas
pas.
déranger, s'il vous plaît.
Ouais. Moi, oh là là, on est en direct.
Oui,
On est
non,
en
non, non,
direct. Ah
non.
merde.
On sera rediffusé
Ah.
demain, mais on prend tout ça, là.
Ah.
C'est trop charmant.
Ok, c'est pas en direct ça, c'est pas grave. Non, et pendant... moi j'ai un projet de film que j'aimerais réaliser, mais je pense aussi que peut-être, je sais pas, c'est ouais, pour moi c'est là, j'ai fait des émissions de radio, de télé, mais c'est vrai que sur scène c'est là où c'est comme le centre, je sais pas, c'est comme un, quand je suis sur scène c'est magique. Enfin de toute façon, je suis pas là, j'enfonce des portes ouvertes en disant ça, mais il y a cet échange avec le public qui est quand même incroyable dans cette société d'écran. J'ai aussi des numéros qui sont interactifs où les gens participent et c'est quand même toujours un plaisir, quoi, cet échange avec le public.
Vous avez parlé de votre premier long métrage, là. Est-ce qu'il est en cours de réalisation?
Ah non, j'aimerais bien ceux qui sont en cours. Non, non, il est en projet. Et au départ, je devais jouer dedans et finalement, j'ai renoncé à jouer dedans. Je vais
Ah
juste le
oui?
réaliser. Ouais. Oui,
Pourquoi?
parce que c'est trop. Parce que j'arrive pas. Je sais pas. Je pense que c'est trop de stress aussi. Je préfère me concentrer sur la réalisation. Et je me suis dit que c'était plus important pour moi de réaliser que jouer, en fait.
Ah
Parce que
oui.
je m'éclate. J'ai mon plaisir de jeu extrême sur scène. J'ai un peu du souci avec mon image, de quoi j'ai l'air, mon profil, le double menton, les petits yeux, voilà, les kilos en trop. Et j'ai pas envie. En fait, je pense que si je réalise le film, je vais passer mon temps à être catastrophée parce que je vois demain.
On est dur
Alors que.
envers nous-mêmes.
Oui, mais voilà, je pense que c'est mieux que je me focalise sur l'histoire que je veux raconter, sur la direction d'acteur. Et c'est déjà un tel boulot de réaliser un film que voilà.
Ouais. Ça va parler de
Donc j'en suis
quoi
là.
en 3-4 mots, là?
Alors, c'est une femme de 50 ans qui quitte son mari et qui. Ça parle des nouvelles femmes de 50 ans, en fait. Qu'est-ce que c'est d'avoir 50 ans, de revivre une nouvelle adolescence à 50 ans, avec les contraintes aussi, qu'on n'est pas une adolescente et que. Et une femme donc, qui est tout d'un coup a des problèmes financiers, sentimentaux, qui a 2 filles adolescentes qui trouvent que leur mère, qui sont pas très contentes de voir leur mère faire tout ça, quoi.
Et est-ce que vous avez une actrice en tête?
Ah, ben, j'attends sa réponse, là.
Ah! J'espère que ça va être distribué au Québec, ce film.
Oui, ben déjà, j'espère que je vais arriver à le réaliser
Bien,
avant
on vous
de
le
le distribuer au
souhaite.
Québec.
Et vous dites que vous
Ouais.
travaillez déjà sur le prochain spectacle. Est-ce que ça va être comme une suite de l'expérience de la vie?
C'est pas une suite, j'essaye de faire différent à chaque fois. Je sais pas. C'est encore trop tôt parce que là, je suis
Oui,
en pleine
oui.
recherche, quoi. On ne sait
Oui.
pas encore de quoi ça va avoir l'air, mais ça va s'appeler L'âge libre. Ça, j'ai déjà le titre.
Vous avez le temps de suivre vos leçons de boxe toujours?
Oui, et ce que j'aime bien avec mon prof de boxe, c'est que c'est moi qui lui cogne dessus et lui, c'est que
Je
moi
ris,
qui
mais c'est
tape
pas
en
drôle.
premier.
Mais lui, il est là pour ça, là.
Ou non, mais je ne
Oui.
cogne pas dessus. Sur lui, il a un machin là,
Oui,
sur le
il est
cou,
capable de se
un
défendre.
mot.
Oui, c'est
Ouais.
ça, ce sont des vrais cours avec un vrai prof. Et
Ouais.
paraît-il que vous avez le talent pour refiler des bonnes adresses. Est-ce que vous en avez des bonnes adresses pour Montréal et Québec, Anne Roumanoff?
J'en ai pas là, mais si, bah, j'ai les bonnes adresses. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue. Moi, j'adorais le brunch de l'hôtel Delta, parce que c'était l'hôtel du festival Juste pour rire, donc j'ai beaucoup de souvenirs là. J'adore Dollarama, je sais que c'est nul, mais bon, j'adore. J'aime
Ben,
beaucoup Jean Coutu.
vous
Jean
n'êtes pas la
Coutu.
seule. Oui, les
Jean
pharmacies.
Coutu. Old Train Fru aussi, j'aime bien.
Oui, c'est chic.
Voilà. Non, bah voilà.
Et l'Olympia ainsi que le Capitole aussi, vous aimez?
Voilà, beaucoup.
Alors, Anne Roumanoff, on invite les gens à se procurer des billets pour aller vous voir et rire aussi en votre compagnie. Vous serez, je le rappelle, à l'Olympia de Montréal le 11 juin, c'est très bientôt ça, et le 12 au Capitole de Québec. Bon séjour chez nous, puis ben merde
Merci.
pour ce soir et à la prochaine, ça a été un plaisir.
Avec plaisir. Merci à vous.
Au revoir.
Merci beaucoup.
Quelle gentille personne, cette Anne Roumanoff. Je me sens vraiment privilégiée d'avoir pu lui parler. Et Serge Bradet nous parlait des activités à faire, notamment cet été, pour célébrer le 50e anniversaire du Mont-Royal. Pour réserver les activités payantes, pour obtenir les détails sur les tarifs, on a trouvé une adresse www.lemontroyal.qc.ca. Merci d'être là. À venir, la chronique cinéma en compagnie de Louise Véronique Sicotte.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
ne sais plus rire, quand je ne suis plus rien qu'une âme qui se déchire et s'accroche à ta main.
C'est bien joli cette chanson. Si vous avez aimé cette chanson de Maud Audet qui s'appelait « Quand que ta lumière », sachez qu'elle sera le 18 juin à la 5e salle.
Ah, dans le cadre des Franco.
Exactement.
De Montréal, qui commence très, très bientôt. Et ce qui commence encore plus que bientôt, que maintenant, c'est la chronique cinéma avec Louise Véronique Sicotte. Bonjour, Louise Véronique.
Bonjour, Hélène.
Trois films cette semaine et peut-être un en extra.
Une mention.
Oui, une mention. On commence avec « Qui brille au combat » de Joséphine Japy et on va écouter la bande-annonce.
Il était une fois un petit monstre d'un autre univers. Elle lui dit, mais tu n'es pas un monstre. Personne ne te connaît.
Comment ils font tes parents avec ta sœur? Entre eux, ils ont plus de vie, non?
Et moi, tu te demandes pas comment je fais?
Elle peut mourir d'une seconde à l'autre et on se débrouille avec ça.
Chaque jour, c'est un miracle.
Vous avez fait un chemin incroyable avec Bertie. Vous vous rendez compte? On va essayer de poser un diagnostic.
On voit.
Et on avance.
Il faut que tu prennes bien, Marion. Tu dois penser à toi. Sinon, un jour, tu vas en avoir marre.
Notre vie, en fait, c'est juste s'occuper d'elle. Je lui parle, elle me répond jamais. Je la prends dans mes bras, elle ressent rien. Je me dis que même la mort, ça lui fera pas mal.
Pour tenir, je me dis que son monde, il est merveilleux. Et qu'on en fait partie. C'est comme ça que je tiens. Qu'est-ce qui va se passer maintenant?
Oui, c'est un film... On a juste à entendre la bande-annonce là, pour comprendre que c'est chargé, que c'est émotionnellement prenant. Là.
Tout à fait.
Qui brille au combat, un film de Joséphine Japy. C'est son histoire, finalement.
C'est son histoire. C'est son premier long-métrage. Oui, c'est son histoire personnelle, en fait, parce qu'elle a une petite sœur qui est atteinte d'une maladie génétique rare, qu'on appelle le syndrome de Phelan-McDermid, ce qui fait que cette jeune fille qui est dans le film a 15 ans, qui s'appelle Bertille, a un problème d'autisme, mais aussi neurologique très grave, ce qui fait qu'elle ne parle pas. Elle est complètement dépendante de sa famille. Alors, c'est un peu l'histoire personnelle, parce qu'elle, la réalisatrice l'aînée, donc, dans le film, elle a 17 ans et elle s'appelle Marion dans le film et elle veut bien sûr devenir plus indépendante parce que toute la famille est concentrée sur cet enfant, Bertille, qui dépend de chacun.
Dans la vie, elle s'appelle Marion et dans le film, elle s'appelle Bertille?
Non, en fait, je reprends.
Ouais.
Alors, dans le film, elle s'appelle Bertille et dans la vraie vie, elle s'appelle Bertille, la jeune fille.
Ah, d'accord.
Mais dans le rôle de Joséphine, qui, elle... Et la grande sœur, c'est Marion.
OK, je comprends.
D'accord.
Et qui incarne Marion?
Marion, c'est Angelina Warrett, qui est une jeune actrice. Mais Mélanie Laurent, c'est la mère qui incarne Madeleine.
Oh, j'aime beaucoup cette actrice.
C'est aussi une réalisatrice. Hein? Elle a réalisé 8
oui.
longs-métrages.
Ah oui, de très bons films.
Très bons films, dont le documentaire « Demain » en 2015. Mm-hmm. Et ce qui est... amusante d'une certaine façon, c'est que Mélanie Laurent avait dirigé Joséphine Japy dans un de ses films.
Ah oui?
Et là, c'est le
rôle... Les rôles sont inversés.
Oui, les rôles sont
et
inversés.
Et il y a le Québécois Pierre-Yves Cardinal
oui.
aussi qui fait partie de la distribution.
Oui, qui fait le père, oui, oui, qui s'appelle
Est-ce qu'il
Gilles.
Garde son accent? Ben, non, c'est pas son accent, mais son parler québécois?
Non, ou... non, 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 oh, non. Il joue vraiment un français.
Et on y croit?
Ben, on y croit. Moi, je trouve, ça me fait sourire un peu, là. De...
Parce qu'il y en a qui l'ont très, très bien. Là. Je pense à Magali Lépine-Blondeau.
Oui, oui, il a bien. Puis tant mieux pour lui s'il commence une carrière en Europe, là.
Pourquoi pas élargir ses horizons.
Mais oui.
Ce film-là avait été présenté à Cinémania l'automne dernier. Qui brille au combat.
Oui, oui. Ouais. Et d'ailleurs, la jeune Bertille, on peut même imaginer qu'on pensait, est-ce que c'est une vraie personne handicapée? Mais non, c'est une jeune actrice. C'est Pachot. Oui. Sarah Pachot, oui. Et elle a eu une nomination au César dans la catégorie Révélation féminine. Parce qu'on y croit. Mm-hmm. Ce film-là fait référence à la résilience, à l'amour inconditionnel, au courage de ces personnes, ces familles.
Ceux qui entourent Bertille.
Qui entourent. En fait, le petit bémol que j'ai dans ce film, c'est que on met aussi de l'accent dans le récit sur Marion, la sœur aînée, qui veut vraiment s'épanouir, qui veut sortir, qui vit des situations, des romances plutôt... toxique, disons. Alors, l'accent est plutôt mis là-dessus, puis j'aurais aimé que le père, donc incarné par Pierre-Yves Cardinal, soit plus exploité comme personnage. C'est un père qui évite, qui se défile, qui trouve ça trop lourd, la situation familiale.
Mais c'est le personnage.
C'est le personnage, mais on aurait aimé peut-être creuser davantage. Je trouve qu'il est plus anecdotique, d'une certaine façon.
Contrairement aux autres personnages.
Concernant, oui. Et Mélanie Laurent, elle est fantastique dans ce film. Elle a une présence très forte.
On y croit.
On y croit. Mais c'est un film, je dirais, aussi lumineux parce que on voit que cette présence de Bertille dans cette famille apporte une lumière. Il n'y a pas de mots, il y a une présence. Alors, c'est quand même très positif.
Et en tant que spectateur, on s'attache aussi à elle?
On s'attache à
toute
elle.
La famille?
On s'attache à la famille, tout à fait. Et c'est un film qui aide aussi à changer notre regard sur le handicap, je dirais. Alors, un beau film touchant.
Est-ce qu'il est déjà à l'affiche ou il va prendre l'affiche?
Vendredi.
Parce que je me disais, il aurait pu prendre l'affiche pendant la semaine québécoise des personnes handicapées.
Oui.
Du 1er au 7 juin. Mais,
et aussi, le titre qui brille au combat, c'est le sens étymologique du prénom Bertille.
Ah, bon. Oui.
Donc, elle incarne le combat aussi. Oui.
Qui brille au combat de Joséphine Japy. À voir, donc, selon
voir,
vous, Louise Véronique.
C'est touchant. Oui.
Autre film, Renoir, est-ce que ça a à voir avec le peintre?
Ah, justement.
Telle est la question.
D'une certaine façon, oui, Renoir, mais ça n'est pas du tout par rapport au peintre, mais c'est parce que dans le film, il y a le tableau « La petite sirène » d'Auguste Renoir et le personnage central a une fascination pour ce tableau. Mais moi, je trouve que c'est plutôt anecdotique dans le récit. Le film aurait dû s'appeler d'une autre façon. Parce qu'on pense que c'est...
Comme un piège?
C'est comme une sorte de piège, on pourrait dire, mais je n'ai pas trouvé que c'était très, très relié, finalement, parce que oui, on voit...
Vous l'auriez intitulé comment, vous, Louise Véronique?
Ça, c'est une bonne question. Ben, je vais d'abord vous parler du film, d'accord?
On n'a pas la bande-annonce parce que c'est un film japonais.
Oui, un film japonais.
Sous-titré en anglais ou en français.
C'est ça, oui. Alors, c'est le second long-métrage de la réalisatrice Chie Ayakawa. Alors, c'est également par rapport à son histoire personnelle.
Ah, encore?
Oui. Alors, c'est situé en 1987 dans une banlieue de Tokyo. Et on va suivre la petite Fuki qui a 11 ans durant son été. Elle est très seule, désorientée, un peu laissée à elle-même. Pourquoi? Parce que son père est atteint d'un cancer en phase terminale, donc il retourne à l'hôpital. Son père est quand même très âgé. Et sa mère est débordée par la situation, débordée par ses problèmes au travail. Donc, elle laisse vraiment Fuki un peu
à elle-même.
Et Fuki a un rapport étrange par rapport au deuil appréhendé, parce qu'elle sait que son père va probablement mourir. Et son rapport à la mort, c'est une curiosité. Alors, elle se passionne pour l'occultisme et elle se met à
il y a une fascination.
Oui,
là.
Elle se met à hypnotiser. Donc, à apprendre son entourage.
Ah bon?
Oui, des personnes inconnues. Bon, alors, elle se passionne pour l'hypnose. Et en 1987, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas d'Internet, en tout cas en banlieue de Tokyo, ce qui fait qu'il n'y a que le téléphone. Le téléphone pour tromper l'ennui. Vous savez, vous vous souvenez des lignes téléphoniques, là, des lignes de rencontre.
Ah oui.
Alors, Fuki est assez particulière comme personnage parce qu'elle a un visage tout à fait impassible. Et elle va essayer de jouer à des jeux que les adultes jouent. Donc, elle va rentrer dans le monde des adultes. Elle va découvrir des
mystères.
Elle est
délurée, cette petite fouquille,
en tout cas. Elle est délurée. Ouais. Elle est délurée.
Elle est curieuse. Elle est curieuse. Elle a quel âge?
11 ans.
11 ans?
Oui, 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 oui.
Et, à ne pas confondre avec le rappeur Fouki, là.
Non, 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 c'est F-U-K-I. Et, okay. et la réalisatrice, elle a voulu se replonger dans ses souvenirs d'enfance parce que c'est ce qu'elle a vécu, hein, le deuil d'un père et d'être laissée elle-même. Alors, il y a des séquences très, très réalistes donc dans le quotidien, mais des séquences aussi, on plonge dans son univers. Donc, c'est des images, des séquences rêvées, imaginées.
Est-ce qu'on change de, pas registre, mais de genre? Est-ce que ça devient un film d'animation dans
Non, pas du non? tout, pas du okay. tout. Mais à un moment donné, on revient, on se rend compte que, on revient dans le réel. On se rend compte que ce n'est pas la réalité.
C'est clair.
C'est
quand...
clair. C'est clair.
La mais différence en même temps, entre la réalité et la...
Il faut avoir un certain travail intellectuel pour okay. le faire, puis je trouve ça vraiment intéressant.
Bien oui.
Oui. Et c'est très, très raffiné, je dirais, comme réalisation. C'est...
Vous avez aimé?
Oui, moi, j'ai aimé. J'ai trouvé que le personnage était tout à fait énigmatique. La petite interprétée par Wii Suzuki. Et il y a un acteur qui est quand même très connu qui s'appelle Lily Frankie, qui incarne le père. Donc, connu dans les différents films japonais.
Ah bon?
Une longue carrière.
Alors, à voir pour cette petite...
Oui.
Le film aurait pu s'intituler Fouki, tout simplement.
Oui, oui. Je pense que ça aurait été plus adéquat.
Plus juste.
Plus juste.
Ouais. Fouki Renoir. Bon, alors, mais oui. Ça s'intitule Renoir.
C'est ça. Mais pas trop d'allusions au peintre, quand même.
Et on termine avec Nervure, au pluriel, de Raymond Saint-Jean. D'ailleurs, Mathieu, notre ami Denis Martin a reçu en entrevue le réalisateur pour parler de ce film. Si vous voulez écouter cette entrevue, elle est disponible sur notre site canalm.vues-et-voix. Et allons-y avec la bande-annonce, ça va nous donner une idée là, de l'esprit de ce film.
Allô, c'est encore moi. Juste pour vous dire que je suis en route. Fait que c'est ça, on devrait être là dans une couple d'heures. Maman?
Qu'est-ce que tu fais là?
Ben, je te l'avais dit que je montrais en fin de semaine. Moi, c'est Isabelle.
Hubert Tupin.
Vous êtes médecin?
À la retraite.
Papa, il est où?
Hubert Tupin, tu m'as oublié.
Ah, ben certain que je t'ai pas oublié.
Laisse-moi te présenter ma femme, Maria, notre nouveau voisin.
Parle-moi donc du nouveau voisin. Mais docteur, as-tu vu comment elle a l'air perdue? Elle avait complètement oublié que je montais. Tu faisais quoi chez lui?
Tu m'as fait honte devant le docteur.
Je peux vous aider, mademoiselle?
Je reste avec toi pour la semaine.
Oh non, 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 non.
Docteur Tupin s'occupe d'elle. Ta fille. Elle part demain. Ça vaudrait mieux.
Un film d'horreur, on dirait Nervure, par oui. Raymond Saint-Jean et Louise Véronique Sicotte. Vous me disiez qu'il avait... C'est pas son premier long métrage.
C'est son deuxième.
Le premier, vous l'aviez beaucoup aimé.
Beaucoup aimé, que c'était Crépuscule pour un tueur en 2023 avec Éric Bruneau, l'histoire
oui.
d'un tueur à gages québécois.
Oui.
Ça avait été très, très bien
Encore
réalisé.
Une fois inspiré d'une histoire vraie. Hein?
Oui,
un personnage
oui, oui,
qui avait
oui,
déjà existé.
Oui, oui.
Et Nervure, là, on est dans la fiction
dans
pure.
Dans la fiction pure.
Oui, avez-vous eu peur?
Ben... Ouf.
Bon.
Comment dire? Non, pas vraiment.
Non.
Mais bon, c'est un film de genre, hein, on l'aura deviné.
Oui,
film
oui.
Fantastique à tendance un peu d'horreur.
Avec une belle distribution.
Une belle distribution, oui.
Romane Denis.
Oui, Marie-Thérèse Fortin, Richard Fréchette et Sylvain Marcel dans le doc, qui incarne un docteur. Et,
Un docteur, un médecin? Là?
Un médecin,
pas
oui,
quelqu'un
oui,
qui a
oui.
un doctorat.
Non, 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 okay. un médecin, mais avec des idées derrière la tête.
OK, alors, pas les meilleures idées non plus,
pas les
on
meilleures
dirait.
Idées. En fait, la thématique est originale parce que c'est pas, on pense souvent les films fantastiques, des films de zombies. Bon, là, on est en autre chose. Il a voulu explorer l'immortalité par la nature, par les plantes,
mm-hmm.
la peur de disparaître. Alors ça, c'est quand même assez original comme thématique, mais c'est la façon dont c'est traité Je pense qu'il utilise les codes du fantastique, les codes déjà vus. Alors, c'est...
On est dans le fantastique aussi, là.
Oui, on est dans le fantastique, mais c'est... Enfin, c'est du déjà vu, à mon avis. C'est un film très verbeux.
L'idée dialogues... est originale, mais le traitement...
La thématique est originale, mais le traitement... en fait,
c'est du déjà vu.
C'est Isabelle qui va retrouver ses parents. Son père est censé être très malade dans un petit village abandonné, presque abandonné, Saint-Étienne. Et là, elle arrive là. Et sa mère, incarnée par
Marie-Thérèse Fortin,
lui apprend que son père est mort. Et là, sa mère a plutôt un comportement plutôt erratique, plutôt bizarre. Elle ne comprend pas. Puis là, elle va découvrir qu'il se passe des choses.
La jeune fille se demande, j'imagine, pourquoi,
pourquoi
sa mère ne lui a pas annoncé la mort de son père.
Justement. Et autre fait, c'est qu'elle arrive avec sa compagne qui est racisée. Et donc, c'est un couple lesbien. Et ça, c'est aussi, une tentative d'inclusion de genre. Mais c'est
un peu plaqué.
Plaqué, ça montre aussi les préjugés de la famille, mais ça reste en surface.
Ah, oui.
Alors, c'est pas très développé, je trouve. Ça reste plaqué, comme pour cocher une case dans un formulaire de... je pourrais dire. Mais par contre, le côté artistique, la direction artistique est quand même très bien soignée. Par Marie-Hélène Lavoie. Donc, une grande maison, l'intérieur, les décors.
Ça se passe où?
À Saint-Étienne, donc un petit village fictif, là, presque abandonné, donc en décrépitude économiquement.
La musique, on entendait la musique, là. Est-ce que c'est envahissant?
La musique est envahissante. La musique, encore une fois, dicte les émotions, quand avoir peur.
Ouais. Hein?
Alors,
on ne faisait pas confiance aux spectateurs.
Oui, puis il y a des revirements de scénario qui sont... c'est comme tu déjà vu, là.
Ou un peu improbable.
Oui, un peu improbable, exactement, un peu improbable. Mais...
Nervure de Raymond Saint-Jean.
Ceci dit, pour les amateurs de genre...
vous me dites que Marie-Thérèse Fortin avait remporté un prix pour son rôle dans ce film.
Oui, oui, oui. Le prix UDA de la meilleure actrice dans un film québécois au dernier festival de Cinémania l'automne dernier.
Ah oui, donc...
Oui, elle incarne un personnage quand même assez complexe parce que pourquoi elle devient comme ça? Puis il y a un retour en arrière d'environ 3 mois aussi pour expliquer ce qui s'est passé avec le fameux docteur qui devient un voisin mystérieux. Et
celui qui est mort, le père, là, c'est Richard Fréchette qui l'incarne?
Oui, oui. Bon. Alors,
j'imagine qu'on ne le voit pas longtemps?
Bien, on le voit quand même parce qu'il y a un retour en arrière, hein, donc pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Okay.
Bon, bien, on termine avec une mention d'un film qui va sortir le 19... Nervure sort quand?
Vendredi. Les trois films dont j'ai parlé sortent vendredi.
Parfait.
Et il y a un film qui s'appelle aussi, un film japonais, encore une fois, Un été en hiver, qui va sortir le 19 juin.
Un été en hiver.
Oui, de Sho Miyake. Et je pense que c'est inspiré de manga.
Mm-hmm.
Donc, c'est parce que c'est très graphique comme visuel. Et une histoire de solitude, encore une fois, entre deux jeunes, une rencontre un peu improbable sur le bord de la mer et une scénariste aussi un peu en panne d'imagination. Donc, comme deux histoires un peu parallèles. Et ça promet.
Oui. Alors, rappelez-nous le titre.
Un été en hiver.
La
traduction française.
Là-dessus, je vous souhaite un été en été.
Oui, on va se revoir. On va se revoir à l'automne. Et pour tous les cinéphiles, bien utiliser les salles climatisées.
Oui.
N'est-ce pas?
Et pour tous les propriétaires de salles, ne mettez pas le climatiseur trop fort.
Oui.
Parce que des fois, on a l'impression d'entrer dans un congélateur.
Et on gèle.
Oui. Puis après ça, on sort, puis on est dans un four à broye.
Et on a le rhume.
Bon, bien, bon été, bon cinéma. Merci pour tout, Louise Véronique Scott. C'est un plaisir que vous soyez dans l'équipe d'Au quotidien. Au plaisir.
Au plaisir.
I lost my darling, I lost my friends, I lost my mind, I lost my baby, I lost my darling, I lost my friends, I lost my mind. Pour une fille d'Ottawa,
grandi à Sainte-Foy, d'un père militaire et d'une belle fille qui fut sa mère, qui écoutait du country entre deux caisses de bière et partait le samedi pour un lac d'Oxbury rejoindre la grand-mère, un autre de family, un autre de family. Oh, je ne peux vivre sans toi et je ne peux vivre avec toi, mais tu peux très bien vivre sans moi, je suis foutu dans les deux cas. I lost my baby, I lost my darling, I lost my friends, I lost my mind. Coup de fil de Jamie qui un jour tomba pour une fille d'Ottawa, grandit je ne sais pas, d'un père pilote de l'air et d'une mère je ne sais quoi, tous deux aimaient le cinéma. Nous sommes habitants de la terre, il y a des milliers de frontières, quelqu'un existe dans l'univers, pour quelqu'un d'autre et c'est la guerre. I lost my baby, I lost my darling, I lost my friends, I lost my mind. Pour une fille d'Ottawa, grandie à Sainte-Foy et qui un jour tomba pour un chanteur populaire, grandi en Algérie, à ses phoques et merci, et qui lui dit adieu, je repars faire ma vie à Oxbury, à Oxbury, à Oxbury, à Oxbury. I lost my baby, I lost my darling, I lost my baby, I lost my darling.
I Lost My Baby, une chanson de Jean Leloup.
Oui, Jean Leloup qui sera à l'honneur cet été, entre autres au Franco. J'étais en train de regarder pour avoir la date pour la suite du Dôme de Jean Leloup. Justement, on vient d'entendre une chanson tirée de cet album extraordinaire Dôme de Jean Leloup. Et il y aura donc ce spectacle hommage à cet album avec Lou Adriane Cassidy, Les Louanges, Thierry Larose, Safia Nolin, Claude Pelgag, Rose, We Are Wolves, Zach Zoya, et ça va se dérouler le dimanche 14 juin 2026 à 21h en plein air sur la scène Rogers, sur la place des festivals. Et on apprenait aussi ce matin une primeur, il fallait garder le silence jusqu'à 10h, mais là on peut parler. Spectacle surprise de Lou Adriane Cassidy, la 37e édition des Franco de Montréal qui va se dérouler du 12 au 20 juin annonce donc ce spectacle de Lou Adriane Cassidy. Ça va se passer au Foufounes électriques, Mathieu. Êtes-vous déjà allé là?
Oui.
Oui, ça fait longtemps.
Très longtemps.
Oui, moi aussi. 16 juin à 20h, spectacle de Lou Adriane Cassidy. Alors, j'imagine que les billets vont s'envoler vite, 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 vite. Mini-chronique économie. Hier, Michel Potvin nous en parlait de ce taux directeur. L'inflation s'accélère et l'économie ralentit, écrit Hélène Barry dans la presse. Face à ces signaux contradictoires, la Banque du Canada a décidé de maintenir son taux directeur inchangé à 2,25 % pour une cinquième fois consécutive. Le message de la Banque du Canada est le même que la dernière fois. Elle dit continuer de regarder au-delà de l'impact à court terme de la guerre sur l'inflation globale et assure qu'elle ne laissera pas les prix plus élevés de l'énergie se transformer en inflation persistante. Sur ces bons mots, je vous souhaite une agréable journée et j'espère vous retrouver demain à compter 9h30. Merci Mathieu. À demain, chers auditeurs.